L'objectif est de repolitiser, révolutionner l'accompagnement et changer le monde.
Un projet militant.
Comment monter le volume ensemble? On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.
Chère accompagnante et accompagnant de Turfu, bienvenue à bord, Elsa Coteillé speaking, ton accompagnante vénère préférée, pour un nouvel épisode d'Accompagnante, le podcast qui révolutionne l'accompagnement pour changer le monde. Que cela soit en solo ou avec des intervenantes complices, ici on dit que l'accompagnement est politique et qu'on est là pour faire bouger les choses. Et on t'invite à les faire bouger avec nous et à créer une communauté engagée et fière de l'être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. On se retrouve de l'autre côté après cette dose de power. Est-ce que tu sais te défendre? Pas physiquement seulement. Je parle de te défendre mentalement, émotionnellement, verbalement, intellectuellement et donc aussi physiquement. Quand ça pique, quand ça déborde, quand ça attaque. Est-ce que tu sais reconnaître une agression? Est-ce que tu sais ce que tu veux vivre quand tu réagis? Est-ce que tu t'autorises à être la personne la plus importante de ta propre vie? Dans cette table ronde du Punchline Festival, enregistrée en octobre 2024, j'ai eu la chance immense de recevoir Anne Van Ift Morel, une personne que j'adore et qui a changé ma façon de voir et de vivre l'autodéfense. Anne, je l'ai rencontrée en 2021 à l'Arche et ça a été un coup de cœur immédiat. Une rencontre pleine de résonance, de vision partagée, de joie militante. À l'époque, elle animait des ateliers d'autodéfense MEVIP, mais elle ne formait pas encore d'autres pros. Et moi, je guettais ce moment-là. Quand elle a annoncé en juillet 2023 qu'elle lançait enfin sa formation pour transmettre cette méthode aux pros de l'accompagnement, bah, je me suis inscrite direct. Et ça a été une claque, une fête, une révélation. Un vrai moment jouissif, d'empuissancement joyeux. Dans cette table ronde avec Anne, on parle ensemble de la méthode d'autodéfense MEVIP qu'elle a créée. Donc cette méthode d'autodéfense mentale, émotionnelle, verbale, intellectuelle et physique. On parle aussi de la genèse de cette approche, croisée entre théâtre, hypnose, communication thérapeutique et arts martiaux. Le lien entre ressenti, sidération et pouvoir d'agir. De comment la joie peut devenir un outil d'autodéfense en elle-même. De l'importance d'être clair avec soi-même, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être libre? Du pourquoi, du comment, crier, frapper, se défendre, ça s'apprend. Et c'est politique. Cette table ronde, c'est une porte d'entrée ou une piqûre de rappel que se défendre, ce n'est pas se durcir, c'est se rappeler ce qu'on veut vivre et créer des espaces pour s'en souvenir ensemble. Bienvenue dans cette première partie de la table ronde, autodéfense, reprendre son pouvoir. Petit rappel, la commu. Si ce podcast vous touche, si cela résonne pour vous, pensez à le faire circuler en laissant une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci aux personnes qui ont pris le temps déjà de le faire. Ou en soutenant son existence via la cagnotte libre, vous trouverez le lien en description. Merci pour votre écoute et votre présence. Belle découverte de cette méthode vivante, radicale et puissante qu'est l'autodéfense MEVIP. Et merci à Anne pour sa présence et ses partages. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette table ronde intitulée Autodéfense, reprendre son pouvoir. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment précieux d'échange et de partage autour de la méthode MEVIP, donc la méthode mentale, émotionnelle, verbale, intellectuelle et physique. Donc c'est un outil d'empuissancement d'autodéfense créé par notre invitée du jour, Anne Van Ift Morel. Anne est comédienne, metteuse en scène, formée en hypnose ericksonienne. C'est d'ailleurs au travers de cet outil qu'on a pu faire connaissance. Et elle est aussi formée en communication thérapeutique, plutôt appelée maïeusthésie pour les personnes qui pourraient connaître. Depuis plusieurs années, Anne développe et transmet la méthode MEVIP pour offrir à chacun et à chacune des outils concrets et accessibles d'autodéfense. C'est important les notions de concret et accessible. Vous allez comprendre pourquoi. Cette approche holistique réunit des techniques issues du théâtre, des arts martiaux, de la communication thérapeutique, permettant d'aborder les agressions sous toutes leurs formes, verbales, émotionnelles, intellectuelles et physiques. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette méthode avec Anne, découvrir les principes fondateurs, justement, de la méthode MEVIP, et explorer comment cette approche peut nous aider, individuellement et collectivement, à renforcer notre posture, à nous affirmer et à reprendre notre pouvoir face aux violences et discriminations systémiques que nous pouvons rencontrer au quotidien. Que vous soyez professionnel de l'accompagnement,
voilà, en quête de nouvelles perspectives concernant vos accompagnements, ou simplement vous êtes des personnes curieuses d'intégrer des outils concrets pour vous défendre dans votre quotidien, cette table ronde est un espace de réflexion et d'échange. Anne partagera également avec nous son projet autour de la bande dessinée Défends-toi toi-même, co-réalisée, co-écrite avec Kay Lam, qui illustre de manière créative le chemin vers l'empuissancement. Je vous encourage à participer activement, à poser vos questions et à vous laisser inspirer par ce temps fort. C'est-à-dire que vraiment, n'hésitez pas à prendre des notes durant tout le déroulé pour qu'on puisse échanger ensemble à la fin. Donc, je vous propose qu'on découvre, ou pour certaines personnes, de redécouvrir comment l'autodéfense peut être un levier puissant pour retrouver l'autonomie et liberté dans nos vies personnelles, professionnelles, individuelles et collectives. Donc, merci à toutes et à tous d'être là et un grand merci à Anne pour sa présence et son engagement. Anne, je me tourne désormais vers toi et je te passe le micro pour que tu puisses te présenter et situer ta parole avec tes mots à toi. On t'écoute.
Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je suis Anne, notamment. J'ai une formation de juriste et puis ensuite, j'ai bifurqué vers le théâtre. Ça fait 30 ans que je suis comédienne et metteuse en scène et que j'ai fait beaucoup de théâtre d'intervention, du théâtre forum aussi, et puis j'ai fait beaucoup de slam aussi dans le milieu hip-hop et dans les questions de genre. J'ai mixé un peu les milieux. J'accompagne aussi individuellement et j'avais à cœur de faire de ma pratique un espace dans lequel on puisse être accompagné individuellement, mais aussi trouver des espaces collectifs d'émancipation, de libération, de rire, de joie et d'empuissancement. Et puis, il arrive aussi des fois que j'en ai un le 10 octobre, je créer des spectacles dans lesquels il y a des comédiens, des comédiennes professionnelles, et c'est aussi des espaces performatifs, Elsa y a participé, sur lesquels parfois les personnes viennent et peuvent déposer aussi un acte performatif avec moi, c'est-à-dire venir faire, là c'est le final du spectacle, et donc je croise des personnes finalement dans le cadre d'un accompagnement individuel dans mon cabinet, mais je peux aussi les croiser dans un atelier et je peux aussi partager le plateau avec elles et eux, parce que je travaille beaucoup avec les femmes et des personnes issues des minorités de genre. Je fais des ateliers en non-mixité choisie ou en mixité. Voilà, je suis blanche, hétérosexuelle, de classe moyenne, et j'aime bien situer ça au sens où j'en ai conscience et que ma pratique est située, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hors sol des oppressions systémiques qui existent et que je porte une attention particulière aux personnes qui peuvent avoir des discriminations que je n'ai pas, et je suis très à l'écoute de ces échanges et d'offrir un espace le plus inclusif possible, et on va peut-être y revenir, parce que j'aime bien en ce moment mon truc c'est réfléchir au cadre. Donc voilà, une petite je te repasse la parole pour qu'on puisse échanger. Si j'ai oublié des trucs que tu as vus, tu me diras.
De toute façon, toute la table ronde va être un support pour qu'on puisse apprendre à mieux te connaître. Je te rejoins sur la notion de cadre. Moi, c'est une passion, c'est une obsession de toute manière depuis des années. Et pour situer aussi cet échange, peut-être je vais préciser, donc comme je l'ai dit dans l'introduction, Anne, j'ai fait sa connaissance au travers de l'hypnose, qu'on était arrivé au niveau hypnose stratégique et systémique en plus, qui est intéressant. Mais d'ailleurs avec le recul, qui n'avait rien de vraiment systémique, voilà.
c'est clair.
Bref, j'ai aussi été formée par Anne, justement, à l'animation d'ateliers, donc d'autodéfense MEGIP. Voilà, donc c'est vraiment Anne qui m'a introduit à toute cette notion d'autodéfense. Et justement, comme je nomme à nouveau cette méthode-là, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'on peut planter le décor ensemble sur Qu'est-ce que c'est que cette méthode d'autodéfense MEVIP et peut-être revenir aussi à la genèse de cette méthode-là. Je l'ai nommée tout à l'heure en introduction. C'est aussi une méthode où tu as intégré des disciplines variées. Mais c'est vrai que j'ai pas nommé tout à l'heure les neurosciences, mais ça en fait complètement partie. L'hypnose, les arts martiaux, mais aussi bien évidemment toute ta casquette de comédienne et de metteuse en scène et de plein d'autres choses encore. Et voilà, je te laisse nous expliquer et on plante le décor comme ça ensemble.
Ouais. Et dans t'as tout dit et juste aussi l'autodéfense féministe parce que c'est l'autodéfense féministe aussi qui a apporté beaucoup d'outils pour s'empuissancer. Donc ça c'est important. Moi j'ai commencé j'ai fait 25 ans d'escrime donc j'ai commencé les arts martiaux et puis l'autodéfense physique ça a toujours été en tout cas se sentir bien. Physiquement c'était important pour moi et c'était une clé d'autonomie et de liberté une première clé et puis j'ai été juriste donc j'ai commencé beaucoup à faire d'autodéfense intellectuelle à transmettre aussi d'autodéfense intellectuelle c'est-à-dire avoir des outils des chiffres des datas des tout ce qu'on peut s'échanger sur les réseaux qui sont très précieux. Les punchlines, les réparties, j'ai beaucoup transmis ça. Et puis en face de moi, j'ai rencontré plein de femmes, essentiellement, j'ai rencontré relativement peu d'hommes, et elles étaient, qu'elles soient chercheuses, artistes, créatrices, jeunes filles très émancipées. Chirurgienne, gardienne d'immeuble, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient toutes les mêmes demandes. On a besoin d'outils. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, intellectuellement, elles ont complètement les outils pour avoir de la répartie elles, dans leur métier, dans leur pratique. Là, quand je les entends, elles ont même des fois, elles en savent beaucoup plus que moi sur quoi répondre et comment répondre. Et c'est là que je me suis penchée sur les neurosciences et sur l'accompagnement et que je me suis aperçue qu'effectivement, sans autodéfense émotionnelle, eh bien, de toute manière, on perdait l'accès à notre cloud intellectuel. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent celles et ceux qui connaissent le cerveau dans la main, il y en a qui connaissent le cerveau dans la main ? Non. Alors, le cerveau dans la main, c'est une façon de raconter que, imaginons notre cerveau, ça c'est le tronc cérébral, là, ça c'est le reptilien, ça c'est le limbique. C'est le cerveau des émotions. C'est une grosse clé USB qui a enregistré tout un tas de raccourcis pour que, en cas de problème, hop, il fasse disjoncter le cerveau du haut pour gagner du temps et dire voilà, pluie, flaque d'eau, glissade, hop, on reste chez soi, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais donc en fait, c'est le limbique. Ça nous fait, c'est une clé USB qui nous fait faire des raccourcis. Heureusement. On fonctionne aussi avec le cerveau du haut, c'est-à-dire le cortex et le néocortex, qui permet la rationalisation, la description de ce qui se passe, le classement, la gestion du temps, voilà. Et dès qu'on a une micro-agression, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau du haut, pouf, on n'a plus accès, il y a juste le raccourci, et qui envoie au reptilien trois actions principales. Fuir, se battre, et si on fait aucune des deux, ben il envoie la troisième qui est faire le mort. Donc en fait, on a beau avoir un super, super cerveau du haut avec un cloud intellectuel génial, avec on comprend la systémie, on comprend, on a les chiffres, les dates, les noms, on est super balèze. En fait, dès qu'on va être surpris, pouf, on va plus avoir accès à ça. On va juste être un peu sidéré. Et si la pression est encore plus forte, alors on va même dissocier. Donc, je me suis dit, OK, chargeons pas trop l'autodéfense intellectuelle, cherchons comment récupérer. Et est-ce qu'on peut ne pas disjoncter? Non, on peut pas, heureusement. Parce que ça veut dire que si on pouvait ne pas disjoncter, on se prendrait des bus, parce qu'en fait, il y a plein de moments dans la vie où il y a quelque chose qui voit avant nous et qui nous permet de reculer pour ne pas prendre un bus. Et heureusement qu'on ne peut pas ne pas disjoncter, sauf à avoir des traumatismes qui font qu'on a coupé le ressenti. Et à ce moment-là, on garde tout le temps le cerveau du haut et on s'est coupé de tous nos ressentis, de toutes nos alarmes. Ce qui fait que ça peut créer aussi d'autres dysfonctionnements, c'est qu'à des moments, l'alarme, elle sonne tout le temps et n'importe quand. Et ça, c'est des crises de panique, c'est tout un tas d'autres choses. Donc, en fait, le fonctionnement normal du cerveau, c'est de disjoncter, de revenir, de disjoncter, de revenir. Voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas la place pour qu'il fasse ça. Clairement, comment ça se passe, c'est qu'il y a du cortisol qui se met là et qui fait qu'il y a plus, un métal qui est conducteur, voilà. C'est plus conducteur. Donc en fait, quand vous avez un stress, il y a une giclée de cortisol. C'est très simplifié, mais c'est un peu ça. Il y a une giclée de cortisol qui fait que ça a plus accès et quand on ocytocine, on retrouve ça. D'où l'importance du plaisir, du rire, de la joie, qui est en fait un outil d'autodéfense extrêmement puissant, puisqu'on va ocytociner et on va récupérer comme ça nos capacités de pouvoir récupérer son cloud intellectuel. Donc, un petit peu long comme intro, mais c'est important parce que ça va être la première chose qu'on va faire, c'est déjà se déculpabiliser de « oh, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça ». En fait, vous n'aviez pas les moyens à ce moment-là, ça a disjoncté, et que maintenant, la priorité, maintenant que vous le savez, c'est la psychoéducation, ça, vous ne pouvez plus ne pas savoir. Si vous perdez vos mots, c'est normal. Prenez le temps plutôt de respirer, de vous marrer, de retrouver un truc sympa, de vous cocooner, de faire un pas en arrière, de vous auto-empathiser pour récupérer votre cloud intellectuel. Et vous aurez tout le temps après d'aller voir un petit peu comment vous voulez avoir de la répartie, comment vous voulez avoir des punchlines d'en faire et tout ça. Donc, autodéfense intellectuelle, autodéfense émotionnelle, mais je me suis dit, toujours un truc qui bug. Et c'est là où les croyances entrent en jeu. C'est que si vous ne vous autorisez pas, si nous ne nous autorisons pas à nous défendre, on aura beau travailler, avoir de la répartie, sans autorisation préalable de dire « je suis la personne la plus importante de ma vie », pas du monde, hein, mais de ma vie, sans cette autorisation de dire « je mets mon masque à oxygène en premier si je veux accompagner les autres, si je veux clasher, si je veux, etc. », sans cette autorisation de vous défendre et de vous mettre en face « et si je me défends, et si je porte un coup, et si ce coup est mortel, et si j'y ai pas pensé avant ou si je me suis pas mis en face de ça avant, peut-être que j'aurais pas le coup nécessaire pour faire cesser l'agression. Parce que l'idée, c'est qu'on cherche jamais à combattre l'agresseur. On cherche à faire cesser l'agression. Bon, voilà. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un atelier total d'autodéfense. C'est pour ça que j'essaye de réduire, mais du coup l'autodéfense mentale, c'est être au clair avec ce qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut avoir raison ou est-ce qu'on veut être libre? Ça veut dire que des fois, je vais lâcher le morceau de j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, pour être libre. Et peut-être que je vais faire ça avec des secondes, troisième intentions. C'est-à-dire que peut-être que à un moment donné, en harcèlement de rue, ben, je vais pas répondre tout de suite. Ou bien je vais répondre avec une intervention paradoxale. C'est-à-dire un truc très bizarre. Faire le dindon ou emoji patate ou il y a plein d'interventions paradoxales qu'on peut faire. Ou bien je vais même subir, mais je choisis de subir, ce qui est complètement différent. Et après, peut-être que je vais faire des actions où je vais faire des balades avec d'autres personnes, des balades à plusieurs femmes, à plusieurs hommes, où on va aller dans les endroits où on n'est pas en sécurité, puis on va aller rencontrer les gens pour savoir pourquoi on n'est pas en sécurité. On va peut-être faire remonter qu'on a besoin de plus d'éclairage. On a fait, voilà. Mais il y a le moment de l'agression où on est seul, peut-être, et où c'est pas judicieux. On fait pas de la pédagogie pendant l'agression. Pendant l'agression, on sort de l'agression. Et puis, peut-être après, on va faire de la politique. Et on va revenir peut-être sur le lieu. Et peut-être on va aussi utiliser la justice. Peut-être que la justice n'est pas adaptée, etc. Donc, on a autodéfense mentale, émotionnelle. Verbale, ça va être les stratégies. Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis de fuir ? Est-ce que je choisis fuir au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'une bonne fuite de temps en temps, c'est très, très bien. La confrontation, est-ce que je choisis l'intervention paradoxale ? Est-ce que je choisis les trois phrases ? Est-ce que je choisis... Ça va être ma partie créative, autodéfense verbale. Et puis, autodéfense physique, ça va être aussi d'apprendre à crier. Est-ce que... Qui a déjà crié dans l'espace public, ici ? Elsa ? Ouais, ah oui. Et est-ce qu'on peut se permettre de crier dans l'espace public ? Et par exemple, des choses aussi dans l'espace public ou dans l'espace privé d'ailleurs, il est préconisé de crier au feu et non pas au secours. Parce que au secours, ça fait fuir les gens. Au feu, les gens ne savent pas ce qui se passe, ils se demandent où est le feu. Et donc, on s'entraîne à crier au feu. Et puis, on rigole parce que c'est complètement absurde. Mais en même temps, plus on rigole, plus on ocytocine. Donc, tout ça est un cercle vertueux. Donc, voilà, j'étais un petit peu longue, Elsa, mais tu peux me poser des questions, tu peux me dire.
Non, c'est parfait. Moi, je trouve que ça plante vraiment énormément le décor. Je pense qu'il y a déjà des punchlines qui y sont passées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai vu des personnes prendre des notes. Donc, merci beaucoup pour tout ça, Anne. Je reviens sur ce que tu disais sur l'autorisation à se défendre. Je pense que ça, c'est pas pour rien non plus, par exemple, que ta BD aujourd'hui, elle s'appelle « Défends-toi toi-même ». Je sais que c'était un angle qui était aussi pris par l'équipe éditoriale autour de toi. Mais mine de rien, il y a un acte profondément politique dans l'idée de se défendre, que ce soit justement mentalement, émotionnellement, verbalement, intellectuellement ou même physiquement. J'ai envie qu'on revienne là-dessus, de poser cette question qui peut paraître un peu bébête, mais je pense que c'est important d'écouter ce qui peut ressortir, en fait, surtout avec tes mots à toi. En quoi, pour toi, est-ce que se défendre, c'est un acte profondément politique ? Et en quoi aussi, finalement, mine de rien, par conséquent, est-il essentiel d'enseigner aux personnes qu'elles ont le droit de se défendre dans un monde où le système, je vais l'appeler comme ça, hein, laisse croire que les institutions sont là pour les protéger, qu'il n'y a pas besoin de se défendre puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui sera quand même là pour venir secourir ou protéger.
Et en même temps, dans les institutions, il y a ce qui s'appelle la légitime défense. C'est-à-dire que l'État a prévu, les institutions ont prévu qu'elles ne seront pas toujours là, derrière, et qu'il y a quelque chose d'essentiel à prendre en soin, et je dis soin plutôt qu'en charge, son propre sentiment de sécurité. Il y a quelque chose de... L'État même vous le dit. À un moment donné, n'hésitez pas à vous défendre vous-même parce qu'on ne peut pas être là tout le temps. Et tant mieux. Alors, sauf que nous, femmes, on a vachement été dressées, femmes et personnes issues de minorités de genre, à se dire que quelqu'un va nous protéger, que un jour mon prince viendra, qu'il y a un chevalier qui va venir, qu'en fait, apprendre à se défendre, c'est surtout apprendre à être autonome. ce qui ne veut absolument pas dire sans avoir besoin de l'autre. C'est-à-dire, moi, j'ai absolument besoin des autres. J'ai absolument besoin d'être protégée comme mon compagnon a besoin d'être protégé. Mais pour autant, je lui confie pas mon propre sentiment de sécurité. Et tout en ayant besoin d'autrui, je peux aussi être le plus autonome possible. C'est pour ça qu'il y a des ateliers en non-mixité choisie pour apprendre à réparer son vélo, pour apprendre à faire des chantiers, etc. Parce que plus on est autonome, plus on augmente nos chances de pouvoir relationner sainement avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, ouais, c'est politique de se défendre parce que finalement, c'est être responsable à 100% de sa vie, comme l'autre est responsable à 100% de sa vie, et ce qui ne veut pas dire que j'ai pas besoin de l'autre.
C'est hyper intéressant que tu rappelles que dans la loi, c'est écrit en fait noir sur blanc, cette notion de droit à l'autodéfense. Mmh. À la justice de défense. Moi, je trouve que c'est au tout début, tu parlais, parfois on pouvait faire appel à la justice si la justice est adaptée, mais il y a aussi, en fait, des moments où on ne s'est pas adapté, et on le sait aujourd'hui, il y a eu une ronde autour de cette question-là, de la justice et du travail de la justice. Mmh. La semaine dernière, dans le Punchline Festival, c'est une vraie question, surtout aussi qu'on peut croiser, nous, en tant qu'accompagnants et accompagnantes, quand on reçoit des personnes qui ont été victimes. Surtout de violences sexistes et sexuelles, mais pas que. Mais c'est vrai que moi, souvent, quand j'ai commencé à découvrir auprès de toi l'autodéfense, j'ai pris conscience aussi quelque part de l'aveu, finalement, des institutions, qu'elles ne peuvent pas être là tout le temps, mmh. et qu'en plus, même parfois, c'est elles qui agressent. Mmh. C'est violente. Donc, il y a d'autant plus un levier politique dans cette idée d'autodéfense. C'est que oui, d'autodéfense par rapport au quotidien, mais d'autodéfense aussi institutionnelle, systémique, beaucoup plus globale, et qu'à notre propre échelle, on a quelque part quand même un pouvoir par rapport à ça. Et justement, ça emmène vers cette notion d'autodéfense comme empuissancement, et j'avais envie de revenir avec toi sur cette notion-là, parce que c'est vrai que là, je précise en plus, on se l'est dit un peu en off tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'ai posé cette idée de reprendre son pouvoir et d'empuissancement. Mais tu l'as précisé en fait avec l'importance de l'ocytocine, comment c'est un processus finalement qui permet de pouvoir retrouver son pouvoir, l'hormone qui est au cœur de tout ça. C'est finalement l'autodéfense comme un puissancement joyeux. Ça, c'est vraiment la notion de joie qui peut être en fait très importante. Quand bien même on parle d'autodéfense et on a l'impression que dans notre inconscient collectif, l'autodéfense c'est physique, faut être au taquet, faut être solide, faut être fort. On n'aurait pas besoin d'être protégé, je peux me défendre en fait toute seule ou tout seul. Je vais revenir avec toi là-dessus sur finalement, je t'entends décrire la méthode MEVIP comme un outil d'empuissancement. Finalement, mine de rien, comment avec tes mots à toi, cette méthode, elle aide les gens à renforcer leur pouvoir d'agir, à prendre leur place, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Et comment ça se fait aussi en lien avec cette notion d'empuissancement joyeux?
Alors effectivement, ces ateliers, ils sont aussi, tu le disais, des ateliers où on va prendre la mesure parfois des profondes injustices qui existent et dans la justice, justement, des profondes injustices dans la justice, et on va aussi pouvoir observer, prendre la mesure, pleurer à quel point, je lisais encore quelque chose autour de la civise et de la folie de l'inceste et de comment les personnes qui parlaient étaient mises en cause elles-mêmes. Enfin, c'est les dysfonctionnements de la justice et des institutions est extrêmement problématique. J'accompagne des gens qui ont été sentinelles pour protéger des personnes de violences sexuelles et qui ont été elles-mêmes accusées et ça s'est retourné contre elles. Donc il y a un vrai vrai problème de justice effectivement en France et pas que. Et donc ces espaces d'ateliers sont aussi des espaces de restauration, des espaces où on va essayer aussi de se consoler ensemble, de pleurer ensemble, mais aussi de retrouver une force et une mesure, parce que ce collectif-là va nous consoler, c'est pas ça, mais en tout cas va nous réchauffer, peut-être va nous restaurer, peut-être que on va s'autoriser à être complètement désespéré, totalement désespéré, totalement en colère, et puis se déposer avec ce désespoir-là, qu'une femme meurt tous les 2 jours et demi, que le racisme est partout, que dans les élections on a le RN qui arrive avec ses idées de violence et horrible dans notre quotidien, avec ces incestes qui d'enfants et ces agressions sexuelles qui sont mais énormes. Donc on va pouvoir se donner le droit de désespérer collectivement, de se déposer là dans ce désespoir là commun, pour ensuite retrouver dans ce tragique et dramatique un deuxième souffle pour être ensemble, pour ça crée énormément de liens, ça crée de la communauté. Hier, j'entendais Selma Sardouk parler de la communauté, comment c'était important. Moi, c'est mes espaces de communauté, ils sont aussi là, même s'ils sont, ça dure 3 heures, même si ça dure un jour, même on a des moments très forts de communauté. Et puis, ben, c'est comme dans les enterrements, et c'est là où on peut avoir les plus gros fous rires, parce que on est dans la vie, dans la mort, et en même temps, ben, c'est là qu'on peut être ensemble et qu'on peut vraiment aussi se laisser jaillir des grandes choses de rire, quoi. Donc oui, c'est en puissant sang, parce que c'est presque un rituel. En tout cas, moi, c'est devenu absolument nécessaire pour ma santé mentale, ça c'est sûr. Je fais ces ateliers aussi pour ma santé mentale, de retrouver des espaces de libération collective, d'empuissancement collectif, de désespoir collectif et d'espérance collective aussi.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est vrai qu'on parle de la méthode MEVIP comme un outil d'empuissancement qui pourrait se dire comment je vais l'appliquer dans ma vie de tous les jours, mais ça, c'est vraiment un deuxième temps.
Ouais.
Le premier temps, c'est vraiment la découverte, l'exploration, le test au travers du collectif, au travers de ces ateliers-là, même si je sais que tu utilises quand même tous ces principes-là dans des sessions individuelles, et même moi aussi, quand je transmets côté psychopédagogique ou parfois on peut faire des exercices, des rituels. Là, c'est vrai que le contexte des ateliers, c'est vraiment un espace collectif, collaboratif. Et je sais que tu utilises aussi le mot restauratif. Et c'est vraiment cette notion où on va tester des choses. Et même quand on va être témoin du test de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, ça va aussi en fait nous apprendre. Et ça va aussi guérir certaines choses en fait en nous. Moi, je sais quand j'ai participé, il y a eu vraiment ce que je te disais tout à l'heure. Il y a eu des moments joyeux, mais au-delà du côté joyeux, c'était même vraiment jouissif. C'est vraiment une sorte de jouissance quand parfois on repart d'un événement, on repart d'une situation bien particulière qui nous reste encore au travers de la gorge, quoi, et qu'on la pose et que quelqu'un d'autre va se porter volontaire pour pouvoir justement la recréer. Et là, ensemble, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire autrement, qu'est-ce qu'on peut venir tester. Et que là, il y a quelque chose vraiment de jouissif, de libérateur quand on arrive au bout d'une séquence qui était en boucle, en boucle, en boucle à l'intérieur de nous, comme quelque chose qui n'arrivait pas à se clôturer. Et quand là, finalement, on arrive à aller au-delà de ça et qu'il y a vraiment une remise en mouvement. Alors ça, c'est vrai que c'est un principe qu'on trouve souvent en thérapie. Finalement, quand notre accompagnant va nous accompagner par rapport à un événement passé qui est encore douloureux et on va remettre en mouvement. Là, c'est vraiment ce qui se joue aussi dans cet espace collaboratif et restauratif où on peut vraiment le vivre avec ce soutien de nouveaux éléments, de la psychopédagogie, des données intellectuelles, mais aussi de le sentir dans le corps, de le voir chez quelqu'un d'autre aussi. Et vraiment, le mot jouissance, moi, il vraiment était lié à ça, quoi. J'ai eu des éclats de rire, mais de jouissance, vraiment de libération très, 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 très fort, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment poser autour de cette notion-là. Comment ça résonne pour toi quand je te dis ça?
Bah, génial, j'adore. J'adore le jouissif, c'est quelque chose qui est une libération émotionnelle et énergétique très puissante. Donc oui, ça, de toute manière, c'est à la force d'une thérapie de groupe. Et quand je travaille dans des groupes constitués, des fois je travaille aussi dans des collèges, dans des lycées en mixité, avec des situations de violence qui se passent. Et quand ils trouvent, nous trouvons, et elles trouvent toutes les de nouvelles ouvertures de champs des possibles ensemble. C'est très drôle. Ça produit de la joie. Ouais, ça c'est sûr. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, l'une des choses que je garde de l'autodéfense féministe, c'est que tout le monde a tout fait tout le temps au mieux avec les infos qu'il avait, et que on insiste beaucoup sur la notion d'histoire de réussite. Et que on va aussi se dire, ben moi j'ai pas réussi dans telle situation à me défendre, à dire non et tout ça. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Ben j'ai fait ça, mais ça a pas marché. Ok, donc t'as tenté ça. Ouais, mais j'ai fait ci, mais ça a pas marché. Ok, donc t'as tenté ci. Ok, donc t'as fait ça. Ouais, en fait t'es là devant moi, debout. Waouh. En fait, t'as réussi, quoi. T'es en train de nous raconter une histoire de réussite. Ouais, ok. Et la prochaine fois, qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Je lui dirais si, ça, ça. Ok, c'est déjà dit. Là, tu viens de le dire. Ok, ça libère littéralement des énergies de parole. C'est là, après, selon les points de vue, des fois, ça rejoint du psychodrame. Des fois, ça peut rejoindre de la constellation familiale. Des fois, enfin, ça, c'est un peu les mêmes auteurs. Des fois, du théâtre forum, ou de toute manière, le théâtre forum, par exemple, on ne change pas l'oppresseur. C'est-à-dire que on se dit pas tout le temps, ah, mais il aurait dû faire ça, ou elle aurait dû faire ça, mais ça se fait pas, etc. Chacun sa partition. La personne qui produit une agression, et on va pas changer ça. Nous, on va voir comment, par rapport à ça, on peut être le plus libre possible et le moins suggestible possible face à ça, tout en reconnaissant soi-même qu'il y a eu agression. Parce que ça, je prendrais bien une petite minute pour définir ce que moi j'appelle agression. Parce que ce qui est un peu ambigu dans la notion de la loi de légitime défense, c'est qu'on va se demander quand est-ce qu'on est légitime à se défendre. Et ça, c'est un gros problème. Parce que je vous expliquais tout à l'heure que les deux ordres principaux du cerveau, c'est fuir et se battre. C'est en cas d'agression, il y a ces deux ordres. Mais si on fait aucun des deux, si on se dit ouais, mais est-ce que j'ai bien vécu, senti ce que j'ai senti, est-ce que je peux faire confiance à mes ressentis, est-ce que si je ne fuis pas ou ne me bats pas, en fait, le reptilien, il va s'impatienter. Et il va vous faire sidérer. Dire ok, on fait le mort, parce que comme tu ne décides pas ni à fuir ni à te battre, le mieux c'est de faire le mort. Comme ça, ça augmente les chances que le prédateur ne veuille pas d'une proie morte. Donc c'est ça qui est dans le reptilien. Donc moi, je vous invite vraiment à porter votre attention sur ce qui pourrait vous pousser à agir plutôt que sur ce qui vous en empêche. C'est-à-dire, pour ça j'utilise la métaphore du froid, c'est-à-dire, je vais le faire avec toi Elsa, il fait super froid, tu sors, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de chez toi.
Je constate qu'il fait froid, qu'il fait trop froid.
Comment tu le sais?
Parce que je le sens dans mon corps.
Ouais, et qu'est-ce que tu fais du coup?
Je rentre chez moi et je me rhabille. Ou je décide de rester chez moi.
Ok, super. Magnifique, c'est presque le plus important de toutes les ateliers. Finalement, Elsa, il y a eu agression. C'est quoi l'agression, Elsa?
C'est le froid.
C'est le froid. L'agression est le froid est une agression pour l'organisme. Mais Elsa s'est pas demandé une seconde si finalement le froid avait eu des problèmes dans son enfance et que elle devait frissonner. Elle s'est pas demandé une seconde si c'était légitime et s'il avait une intention, le froid, de nuire ou pas finalement. Ou bien finalement, est-ce que le vent, il était tactile de nature? Hein, et qu'il avait donc le droit de la glacer sur place. Non, elle s'est concentrée sur faire cesser l'agression, elle a mis un manteau où elle va boire un coup, elle reste chez elle, elle trouve des stratégies et elle ne se fait pas hypnotiser par « Ah mais pourquoi le froid il fait ça? Mais est-ce que ce que je ressens c'est vraiment juste ce que je ressens? Peut-être que je suis hypersensible et en fait je ne devrais pas avoir froid. » Parce qu'on me le dit tout le temps depuis que je suis petite, « Tu ne dois pas avoir froid quand il fait 10 degrés. » Ouais, mais on s'en fout. Quand il fait 10 degrés, vous avez froid, vous avez froid. Bon, on s'en fout qu'il ne faut pas avoir froid. Même il y a des gens à 27 degrés, ils ont froid. Et alors? And so what? Eh bien là, c'est pareil. Se concentrer sur son ressenti nous donne des moyens d'agir. Pour autant, on ne va pas confondre l'agression et l'agresseur et on ne va pas dire à la personne qui a produit cette agression qu'elle a eu une intention d'agresser. On n'en sait rien. Et d'ailleurs, moi, je produis des agressions régulièrement, sans le vouloir. Et d'ailleurs, on en revient au cadre. Il n'y a pas de cadre safe pour moi. Je peux produire des agressions en tant que personne par qui je suis. Et si la personne en face me dit qu'elle ressent quelque chose, alors je vais pouvoir m'ajuster et dire « Ah ok, tu ressens les choses comme ça ? Ok, je n'avais pas vu ça. Moi, je n'avais pas cette intention de nuire. » La personne pourra te dire « Ouais, tu n'avais pas intention de nuire, mais moi, je ressens ça. » Et ok, on va faire une danse comme ça pour s'aligner. Donc, on ne confond pas l'agresseur et l'agression et ça nous fait des vacances. Il y a agression quand on se sent agressé. Et à partir de là, eh ben, on va prendre soin de soi, on va sortir de l'agression et ensuite, si on doit définir objectivement si la loi dit qu'il y a agression ou pas, c'est un deuxième temps. Mais ce qui est vachement important, c'est que nous recommencions à faire confiance à nos ressentis et à focaliser sur ce dont nous avons besoin plutôt que oui, mais il aurait dû comprendre, oui, mais il aurait dû faire ça, oui, mais elle aurait dû faire ci, ça se fait pas. Ben, si, ça se fait, en fait, tout se fait. Vous savez quoi? Tout se fait. Même le pire des horreurs. Et à tout moment et par toute personne. Bon, c'est pas super comme nouvelle, mais en même temps, ça permet d'être plus détendu et puis de se concentrer sur nos ressentis et puis sur nos moyens d'agir. Selon moi.
Bah, merci Anne, merci. Moi, je trouve ça hyper important. Là, tu viens de poser quelque chose qui est essentiel et qui fait le lien parfait avec toute la question que j'avais envie de te proposer autour de... Bah, là, c'est une méthode d'autodéfense. Mais quels pourraient être les liens justement avec l'accompagnement? Là, je pose la question comme ça, mais moi, depuis tout à l'heure, j'entends énormément de liens avec l'accompagnement, énormément de liens quand on est accompagnant, accompagnante, de messages clés, de cadres à poser auprès de nos accompagnés, quand justement on les reçoit par rapport à un moment de leur vie, par rapport à un besoin. Là, j'ai quand même envie de naïvement te poser la question sans vouloir induire quoi que ce soit, en te demandant, toi, selon toi, comment les accompagnantes et les accompagnants peuvent intégrer la méthode d'autodéfense MEVIP dans leur pratique pour offrir justement un soutien plus complet à leurs accompagnés, que ce soit après justement une agression, après un événement difficile, inconfortable, ou même en fin de parcours, ou même après. Pour préparer la suite. Qu'est-ce qui vient, toi, comme justement expérience, élément, puisque tu le fais, toi, dans ton cabinet tu accompagnes aussi en individuel, comme tu l'as précisé, et je pense que ça peut être hyper intéressant aujourd'hui de juste pointer du doigt cet horizon qui est accessible pour les accompagnants et les accompagnantes autour de ces notions-là.
Déjà, ma façon d'accompagner, elle est très feignante, c'est que je demande aux gens ce dont ils ont besoin. Donc, ça permet quand même de ne pas partir sur un truc ésotérique s'ils ont besoin d'avoir des outils clés pour apprendre à dire non. Il s'est trouvé que j'ai accompagné une très jeune mineure qui avait de la violence de la part de son père. Tous les signalements avaient été faits. Les assistantes sociales, etc., savaient, etc., etc. Ben, en fait, on a travaillé sur un temps d'autodéfense pour que, ben, il apprenait comme ça, comment faire pour devancer, pour esquiver, pour dire non. C'était très, très physique, très concret. Il se trouve qu'elle n'a pas eu besoin de le faire. Et donc, je ne sais pas où ça se situe. Est-ce que, vu qu'elle était prête, vu qu'elle avait cette intentionnalité, ça ne s'est pas reproduit, vu qu'elle pouvait s'autoriser à dire « oui, tu vis ça », ça ne se fait pas. Il y a des gens qui essayent d'intervenir, mais pour le moment, ça ne se fait pas. Et là, tu vas devoir retourner, puisque c'était son choix. On avait tout essayé. Hein. C'était un truc qu'on avait tout essayé, la grand-mère et tout ça. Bon, elle décide quand même de retourner là. Je dis « ok, ben, je vais te donner des outils ». Et je l'ai revue un an après et elle était partie de chez elle. Bon, mais en tout cas, je ne sais pas où ça se situe, mais le fait de dire ben, ce qui ne peut pas arriver peut arriver et comment on fait avec ça, avec cette réalité-là, ben, ça peut être cet endroit-là. J'aime bien aussi quand les personnes viennent dire... j'ai pas mal de personnes qui viennent en hypnose parce qu'elles ont un blackout et elles veulent être mise en état d'hypnose pour retrouver le souvenir traumatique et savoir si elles ont été violées ou pas. Alors évidemment, c'est pas des pratiques que je fais, mais pour autant, je les accompagne sur en quoi c'est judicieux que tout leur être organise un blackout. Et en quoi c'est pertinent que leur être soit en protection par rapport à ça. Et je leur signifie aussi la systémie que finalement, en tant que femme, on n'a même pas besoin d'avoir eu un traumatisme pour souffrir d'un traumatisme intergénérationnel, voire même interpersonnel. Parce que la présence du viol dans l'imaginaire collectif est tellement énorme que si ça se trouve, on n'a pas besoin d'aller créer un souvenir, voire trouver un souvenir dans sa biographie, voire en intergénérationnel, parce qu'en fait, c'est aussi un peu là partout. Donc ça, c'est aussi ma pratique située parce que je dis aux personnes le fait d'être femme, le fait d'être femme racisée, le fait d'être personne en minorité de genre, le fait d'être homme blanc, ben en fait, on a des backgrounds, on porte des backgrounds. J'ai accompagné un homme blanc qui avait des problèmes avec sa compagne de violence et effectivement, ben, il y a une systémie qui se met en place. Et lui porte les casseroles des hommes blancs, elle porte les casseroles de la femme. Quand les personnes viennent me voir, elles savent que le cadre des oppressions ne va pas être invisibilisé. Et je ne dis pas qu'il est juste, ce cadre, je dis qu'il est celui-là, il est celui annoncé. Et comment, dans vos pratiques, éventuellement, vous pouvez utiliser ça ? Déjà, poser les questions de quoi ont besoin les gens. Déjà, des fois, ils ont besoin de soutien uniquement. Ils n'ont pas besoin qu'on les change. Enfin, en tout cas, moi, par rapport au changement, j'en suis là aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin qu'on les change. Ils ont besoin de leur dire à quel point ils sont vraiment chouettes dans cette version-là et à quel point ils peuvent tellement faire confiance en leur ressenti, en eux, qu'ils sont peut-être la version... Enfin, c'est en tout cas, on se détend avec le changement et on se détend avec le changement uniquement individuel. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aller dans un groupe de parole parce que je pensais à une personne qui avait perdu un enfant. Et ben, elle est allée dans un groupe de parole où il y avait que des personnes qui avaient perdu un enfant. Et en fait, c'est pas moi qui peux lui apporter ça. Et en fait, c'est quoi? Le fait qu'elle s'en remette, c'est hyper violent comme injonction. En fait, peut-être qu'elle s'en remettra jamais. Et c'est, enfin, c'est ok, c'est un tic de langage, mais on a le droit de pas s'en remettre. Et qu'est-ce que ça veut dire de pas s'en remettre? Et effectivement, Salma Sardouk et toi, vous parliez de la résilience et de l'injonction à la résilience. Et des fois, ça me fait un peu cet écho. On a le droit d'être désespéré, d'être inconsolable. Ce qui va produire potentiellement la consolation, d'ailleurs. Mais c'est pas l'injonction. Ça répond un peu, peut-être je pourrais répondre plus pratiquement. J'utilise l'autodéfense. Des fois, en début de séance, selon les besoins. Et puis, en fin d'accompagnement aussi. Et puis, des fois, ça vient aussi que j'accompagne une personne toute seule. Et puis après, elle vient en couple. Donc, elle vient en couple et donc ça peut l'accompagnement du couple. Et puis des fois, le partenaire ou la partenaire que j'accompagne en individuel et puis après ils redeviennent en couple. Ou mère-fille, j'ai eu aussi le père, la fille et la mère aussi. Donc voilà, il y a aussi comment on peut replacer la personne aussi dans son système à elle, dans son couple, dans sa famille, dans les ateliers d'écriture que je fais aussi. On va avoir aussi un groupe de jeunes gens. Et ça va aussi il va y avoir de la réparation dans le collectif. Où on va faire un acte performatif de slam, au slam citoyenne, avec des personnes en rupture sociale, et puis elles vont être sur scène. J'avais fait le bal des super-héros et héroïnes. C'était des jeunes femmes exilées qui étaient portées par des gars et qui étaient comme des reines avec des couvertures de survie. Et elles avaient traversé toute la place de Poitiers pour un spectacle, et c'était les reines. Et pour moi, c'est un acte d'empuissancement performatif. Parallèle à un accompagnement où c'est important pour moi.
Je trouve que c'est précieux en fait ce que tu nous partages là, parce que ça rouvre le champ des possibles. C'est vrai que souvent tu te formes à un outil, tu vas te dire que c'est l'outil qui va aider la personne, je vais lui transmettre l'outil, on va faire des exercices en lien avec l'outil et puis ça ira mieux, quoi. Voilà, notion de changement, notion de résilience. Et finalement, c'est là ce que tu réouvres, c'est qu'est-ce qu'on appelle vraiment, qu'est-ce qui est vraiment la guérison, qu'est-ce que ça veut vraiment dire la remise en mouvement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire la résilience, qu'est-ce que ça veut vraiment dire le changement, c'est la libération, l'émancipation, voilà, ça repose des données clés et ça permet aussi, je trouve, de vraiment rouvrir le champ des possibles sur qu'est-ce qui est vraiment thérapeutique finalement, qu'est-ce qui va vraiment restaurer, qu'est-ce qui va vraiment guérir. Et c'est pas des outils, c'est peut-être plusieurs choses en même temps, c'est peut-être plusieurs, et ça se trouve ça se passera même pas à l'intérieur de notre cabinet tel quel. Ça se trouve oui, ça sera un positionnement, on va dire entre guillemets curatif, il s'est passé quelque chose et donc il y a besoin de l'accompagner et d'en prendre soin, mais c'est aussi comment, une fois qu'on a pu prendre soin, comment on va faire en sorte que s'assurer autant que possible que ça puisse ne jamais se reproduire, ou en tout cas que la personne puisse se positionner autrement. Et c'est aussi derrière, tout ce qui est lié au thérapeutique, je pense que ça peut donner des autorisations et des clés de qu'est-ce que chacune en tant qu'accompagnant et accompagnante, qu'est-ce qu'on peut proposer au sein même de nos cabinets qui ne ressemble pas en fait à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Là, tu parlais d'actes performatifs, mais il y a plein de choses qui sont possibles à imaginer à l'intérieur de nos cabinets et aussi en collectif et aussi en acte performatif à l'extérieur ou en fait avec plein d'autres supports et d'autres éléments. Mais voilà, je trouve que oui, on parle de la méthode MEVIP, voilà, avec ses grands principes clés et toutes ces notions d'outils. Et en même temps, c'est aussi même un, une façon de pratiquer, c'est une façon d'accompagner, qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. Je sais pas comment ça résonne pour toi, Anne, quand je dis ça.
Oui, oui, complètement. Et elle est complètement brassée de l'intersectionnalité. C'est aussi parce que ma filleule qui est africaine partage avec moi ces moments où je vais pas l'accompagner forcément dans mon cabinet, mais ça va être autour d'un repas avec ses amis que les choses vont se passer. Donc moi, je suis très curieuse en fait de comment la vie elle jaillit de partout quoi. Elle jaillit dans un repas, elle jaillit au contact de la nature. Il y avait une dame qui était complètement désespérée qui m'a appelée en me disant je vous avertis, je viens mais ça va pas marcher. Je dis OK, elle dit je viens mais ça va pas marcher. Je lui dis mais vous savez, moi je travaille au service de la vie. Et je travaille pas pour les gens, donc si vous voulez, on plantera des fleurs, mais venez, puis on verra. Et puis, effectivement, ça a commencé dehors. Après, c'est une personne qui est en train de se former aujourd'hui à l'accompagnement, et il y a autre chose qui s'est joué, quoi. Donc, effectivement, qu'est-ce qui est thérapeutique? Moi, j'ai la sensation que c'est la vie qui est thérapeutique. La vie, la curiosité, l'envie de partager, comment on s'allume là comment on s'allume, comment malgré tout la météo et les injustices quoi.
Et ça fait vraiment c'est très important même dans la notion de l'accompagnement des traumas. On le sait, hein, c'est vraiment c'est l'isolement qui fait que souvent on a du mal justement à remettre en mouvement quelque chose s'il y a besoin de le remettre en mouvement, mais c'est vraiment par cette réhumanisation, ce contact avec les autres, ce lien aux autres qui fait qu'il y a aussi quelque chose qui bouge par rapport au trauma. Donc c'est vraiment tout ce que tu poses là, quoi. C'est c'est pas seulement forcément du one-to-one très classique, un début de séance, un milieu et puis une fin, quoi.
Et voilà, la team de Turfu, c'est tout pour cet épisode d'Accompagnante. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et que vous repartez avec votre dose de power. Rappelez-vous, Accompagnante, c'est un podcast et c'est aussi un espace, une communauté qui a besoin de votre force pour grandir. Alors pensez bien à vous abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est totalement gratuit, mais votre soutien n'a pas de prix pour moi, alors vraiment merci. Merci en fait de prendre ce temps-là. Et si vous voulez soutenir Accompagnante par le pouvoir de l'argent, vous pouvez le faire via un don libre, c'est totalement possible. Je vous mets le lien de la cagnotte en description. Et d'ailleurs, en description, vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources mentionnées dans l'épisode. Et pour aller plus loin, c'est sur mon site internet, elsacoutillier.com. La team, si vous avez aussi envie de partager vos tilts concernant l'épisode, si vous avez des questions, des idées de sujets ou des invités que vous aimeriez entendre dans de futurs épisodes, vous pouvez me contacter sur Instagram à @elsacoutillier. En attendant, continuez à repolitiser votre pratique d'accompagnement et à être les véritables révoltés dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'accompagnante. Je vous dis à plus dans le bus de la révolution et prenez bien soin de vous.
Et de repolitiser votre chemin d'accompagnement et changer le monde.
Un projet pour monter le volume ensemble.
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.